La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Les progrès de la médecine ont permis ces dernières années de proposer à des patients des stratégies thérapeutiques très ciblées avec la possibilité justement de soigner les personnes grâce aux outils de la génomique. C'est en analysant précisément les bases moléculaires des maladies qu'est née ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Le dossier de la tête au carré s'y intéresse cet après-midi pour comprendre comment justement le ciblage thérapeutique est en train de changer profondément la façon de soigner les malades et en particulier dans le domaine du cancer. J'attends vos messages et vos questions pour en parler. Vous nous rejoignez bien sûr sur France Inter. Et sur le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte sur les virus géants.
Oui Mathieu, des chercheurs marseillais pensent que ces très gros virus connus depuis un peu plus de 10 ans sont des artistes de la génétique, des créateurs de gènes si vous voulez. On vous explique tout dans un instant avec le professeur Jean-Michel Clavery.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Hannibal Watchi.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La médecine personnalisée, ce sera donc le dossier dans un instant avec mes invités que je salue. Caroline Robert, chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy et Marc Billot, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Marc Billot. Est-ce que la médecine personnalisée, ça n'est pas d'abord un pléonasme finalement ?
Effectivement, on pourrait le concevoir, parce que la médecine, par essence, est personnalisée. La relation avec entre le patient et le médecin est une relation qui est personnalisée.
Ouais. Et pourtant, il y a du nouveau.
Et pourtant, ce terme, maintenant, est utilisé pour définir un autre type de médecine, qui est une médecine moléculaire, en fait. C'est une médecine qui est ciblée sur les caractéristiques moléculaires, à la fois de la pathologie et du malade.
C'est ce qu'on va expliquer dans un instant aux auditeurs, parce que c'est un secteur très particulier, justement, Caroline Robert. Et on évoquera en particulier, justement, les traitements personnalisés autour du cancer.
Oui.
C'est là, aujourd'hui, qu'on travaille le plus.
Alors, effectivement, on a identifié au cours des dernières années des anomalies moléculaires dans différents types de cancers et on les cible avec des médicaments. Et on va voir les énormes bénéfices, mais aussi les limites de, oui. cette médecine.
On en discute donc tous ensemble dans quelques minutes avec cette notion de médecine personnalisée et les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Il s'appelle Pandoravirus, Mimivirus, Molivirus. Les virus géants sont aujourd'hui à la une de la science. Depuis leur découverte, ces très gros virus visibles au microscope optique inquiètent, mais surtout intriguent beaucoup la communauté des biologistes. C'est surtout leur bizarrerie génétique qui pose question. Un génome énorme avec de nombreuses parties inconnues dans le reste du monde vivant. Et aujourd'hui, une équipe française annonce la découverte de 3 nouveaux spécimens identifiés à Marseille, Nouméa et Melbourne. Axel, pour comprendre les virus géants, on discute avec celui qui les traque dans la moindre flaque d'eau de la planète.
Oui Mathieu, on part à Marseille en duplex avec les locaux de France Bleu pour rejoindre Jean-Michel Clavery. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, bonjour Axel,
bonjour
à tous.
Vous êtes professeur de médecine à l'université d'Aix-Marseille et c'est avec la virologiste Chantal Abergel que vous traquez ces virus un peu partout sur la planète. Également dans le studio avec nous Hervé Kempf pour le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors Jean-Michel Clavery, pour commencer, racontez-nous un peu comment on organise une chasse aux virus géants.
Oh, c'est assez simple dans notre cas, parce qu'on travaille avec des virus qui ne sont pas pathogènes, qui ne sont pas dangereux ni pour l'homme, ni pour les animaux, ni pour les plantes. Ces pauvres virus infectent des amibes, qui sont des protistes, des petits êtres unicellulaires qu'il y a absolument partout, mais surtout dans les milieux humides. Donc en gros, on se balade dans le monde entier avec quelques petits flacons, et quand on voit, comme l'a dit très bien Mathieu, une flaque d'eau, ou plutôt la vase qu'il y a au fond d'une flaque d'eau, on en prélève un peu, on revient au laboratoire, et on les met en présence de leurs fameuses amibes. Et s'il y a des virus qui peuvent s'accommoder de cette hôte, eh bien, ils les tuent et c'est comme ça qu'on les détecte.
Alors, en comparaison avec des virus classiques, pourquoi vous les appelez géants ? Quelle est la taille de ces virus ?
Ben comme Mathieu l'a déjà dit, par définition, les virus ont même été découverts en 1892 parce qu'ils passaient à travers les filtres connus de l'époque. Donc, ils ont toujours été beaucoup plus petits que les bactéries, que les cellules animales, bien sûr. Et donc, ils sont géants parce que c'est la première fois qu'on voit des virus, mais qui sont parfaitement visibles au microscope optique et qui ont donc des tailles de l'ordre du micron et qui ne passeraient pas justement à travers ces fameux filtres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont probablement dû être ignoré pendant presque plus d'un siècle, parce qu'on avait défini au départ les virus comme étant tout petits et ceux-là sont très gros.
Et on en trouve vraiment partout sur la planète, dès qu'on trouve un peu de vase, on trouve des virus géants dedans.
Ben, disons que nous nous intéressons pour l'instant uniquement aux virus qui sont capables de coloniser et d'infecter des amibes. Et il se trouve que ces amibes sont effectivement des êtres unicellulaires qui sont absolument partout dès qu'il y a un petit peu d'eau. D'ailleurs, même de l'eau salée, on les trouve également dans la mer. Et donc, c'est un très bon sujet d'étude de ce point de vue-là. Mais je suis sûr que si on prenait d'autres types de cellules à infecter, on aurait probablement d'autres types de familles de virus géants qui vont apparaître. Et donc, ce n'est que partie remise, je dirais. Pour l'instant, on n'a probablement qu'une toute petite vision de la diversité actuelle de ces très gros virus.
Jean-Michel Clavery, Hervé Kempf, est très intrigué par vos virus géants. Il a une question à vous poser pour reporter.net.
Ben oui, on les trouve dans les flaques d'eau, mais vous dites qu'on les trouve aussi dans les océans. Est-ce que vous êtes déjà capable de dire s'ils ont un rôle dans la gestion des écosystèmes marins?
Alors, des pandoravirus, pour l'instant, n'ont jamais été encore découverts dans des milieux marins, mais le premier type de virus géant qui a été découvert, qui était mimivirus, qui a été découvert en 2003, à toute une famille de virus qui lui ressemblent beaucoup, qui sont effectivement des virus qui infectent des microalgues ou d'autres protistes dans la mer, ceux-là, et qui ont justement un rôle extrêmement important parce que leur rôle est de réguler les populations de protistes et de microalgues à un point que l'on n'imaginait pas encore très récemment, puisque plus d'un tiers de chacune de ces petites cellules de plancton qu'on ne voit pas sont tuées chaque jour par une infection virale. Autrement dit, ces virus ont un rôle de régulation absolument capital dans la production de l'oxygène par les océans, c'est quand même un tiers de l'oxygène qui est produit sur Terre, et surtout dans la captation du CO2. Donc ces virus sont le dernier petit maillon régulatoire de la chaîne qu'on n'avait pas encore découvert.
Alors, vous commencez à avoir une sacrée collection de pandoravirus, de mimivirus. Et là, l'idée du papier que vous publiez dans la revue Nature Communication, c'est de les comparer. Vous en avez assez pour essayer de comprendre leur évolution, c'est ça?
Alors, c'est toujours ce qu'on fait quand on trouve un premier virus ou un premier événement en biologie. On se pose toujours la question, est-ce que c'est un phénomène de foire ou est-ce que ça nous dit des choses qui sont plus générales sur la biologie? Donc, il a fallu effectivement attendre d'avoir un certain nombre de ces virus pour pouvoir les comparer ultimement et surtout pour chercher à comprendre d'où venaient les très nombreux gènes qu'ils ont qui ne ressemblent absolument à rien. Parce que c'était, dès le début, ça nous avait beaucoup interpellés. Ce sont les premiers organismes vivants, si on veut dire, dont plus de 90% des gènes que l'on peut détecter ne ressemblent à rien de connu. Alors il faut bien voir que la vision actuelle qu'on a de l'évolution, c'est que tout a démarré par une espèce de Big Bang biologique qui a créé un grand nombre de morceaux de gènes, on appelait ça comme des Legos, et que depuis cette époque, on ne fait que réassembler, souder, casser quelquefois, mais assembler de différentes manières, toutes ces parties de Lego, je dirais primordiales, pour faire les gènes d'aujourd'hui. Et là, on a eu l'impression dès le premier virus que les gènes qu'il utilisait, qu'il avait, n'appartenaient pas à cette famille de Lego ancestraux, n'étaient pas faites à partir de ces Lego ancestraux, ne ressemblaient à rien. Et donc ça pose un problème assez fondamental, d'où viennent ces morceaux de gènes, ces gènes qui ne ressemblent à rien, apparemment pas de la soupe primordiale, je dirais, des Lego géniques du début.
Voilà, c'est la soupe primitive que vous décriviez, hein, Jean-Michel Clavery, c'est ça, c'est les débuts de la vie au fond?
Ben c'est bien après la soupe primitive, hein, qui n'était que biochimique. Quand on a commencé à faire les premiers organismes vivants, on parle de Lucas, le premier ancêtre de la cellule. Il avait probablement plusieurs milliers de gènes, ou un millier de gènes peut-être. Il a bien fallu les créer d'une manière ou d'une autre, même de nouveau à l'époque. Mais on avait l'impression, la vision actuelle, c'est que tous les gènes contemporains sont issus, sont tous cousins de ces différentes familles de gènes qui ont été créés à cette époque-là. Et donc, c'est un vrai mystère de comprendre comment des gènes n'ont pas d'histoire. Enfin, comment on peut avoir l'impression que, eh bien, certains de ces gènes, notamment des pandora virus, ne se prolongent pas dans le passé. D'où viennent-ils?
C'est une question sans doute très très candide, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez trouvé quelque chose de très important qui pourrait bouleverser la théorie de l'évolution, qu'on trouve partout, et pourtant ces virus, ça représente quelle masse? On a l'impression qu'on devrait en trouver partout maintenant, et ça devrait être une masse énorme par rapport à tous les virus qui sont connus par la virologie depuis plus d'un siècle. Donc c'est un peu l'éléphant dans le couloir que vous nous dites qu'on n'aurait jamais vu depuis.
Effectivement, parce que si vous cherchez un éléphant avec un microscope, vous avez peu de chances de le trouver. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis que la virologie existe, en 1892 exactement. Eh bien, on a toujours cherché des virus qui, par définition, étaient tout petits, avaient très peu de gènes et en plus surtout causaient des maladies visibles. Parce qu'il faut bien voir que la virologie, je sais que nous avons des collègues médecins dans le studio, s'est développée essentiellement pendant les premiers 100 ans pour chercher à comprendre l'origine de maladies. Maladies humaines, maladies de plantes, maladies d'animaux. Or, il se trouve que là, ces virus sont totalement silencieux puisqu'ils tuent des pauvres amibes dont personne n'a absolument rien à faire. Et donc, on ne se rendait pas compte qu'ils étaient très pathogènes, mais pour les amibes, mais pas pour les animaux, ni les plantes, ni les hommes.
Jean-Michel Clavry, une dernière question. Il y a 3 ans, vous en aviez découvert beaucoup moins et vous avez répondu à une interview en disant que ces virus étaient les oubliés de l'évolution. Est-ce que 3 ans après, vous êtes toujours d'accord avec cette façon de les décrire ?
Pas vraiment, parce qu'en fin de compte, depuis ces découvertes de virus géants, ils ont vraiment repris un petit peu le centre de la scène dans les milieux spécialisés, bien évidemment. Et au niveau des évolutionnistes, ils font l'objet et leur origine de tous ces virus, pas seulement des pandoravirus, mais des virus en général, ils font l'objet de débats extrêmement violents, sanglants, mais aussi actifs et intéressants entre les biologistes pour mieux comprendre quelle peut être l'origine de ces virus par rapport au monde cellulaire, notamment. Et on est content de contribuer une petite brique dans ce débat, parce que je vous assure que certainement cet article va causer de gros débats. Mm-hmm. Mais disons que les virus géants ont vraiment été très importants pour relancer l'interrogation générale sur qu'est-ce que sont les virus, d'où viennent-ils et où nous amènent-ils essentiellement.
Nos invités, en tout cas Marc Billot et Caroline Robert, vous écoutent avec beaucoup d'attention, Jean-Michel Clavry, n'est-ce pas, Marc Billot?
Ouais. Impressionné par cette mode découverte.
Ouais. Caroline Robert, même chose.
Choses qui étaient là, on ne le savait pas, maintenant on le sait. C'est extraordinaire.
Grâce à nos chasseurs de virus, voilà Jean-Michel Clavry et Chantal Abergel, entre autres, et leurs équipes. Merci beaucoup Jean-Michel Clavry. Merci aux équipes de France Bleu à Marseille qui nous ont permis ce duplex. Un petit mot Hervé sur le sommaire de reporter.net.
Oui, rapidement, à la une aujourd'hui, en cette journée très arrosée d'eau, on s'est intéressé au vin et notamment à la vigne, parce que on parle beaucoup du vin, on parle pas assez de la vigne qui pose un vrai problème. On était voir un pépiniériste, et vous saurez tout après sur le cep américain et les porte-greffes. Et puis aussi une nouvelle importante, un rapport de l'IRSN, l'Institut de Recherche et de Sécurité Nucléaire, sur lequel on revient, parce que pour la première fois en France, on envisage officiellement l'entreposage à sec des déchets nucléaires.
Oula.
C'est un rapport important.
Bien, on va lire ça attentivement alors pour savoir de quoi il s'agit. Reporter.net pour en savoir plus. Merci beaucoup Hervé et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique sur la planète Mars, présentée la semaine dernière par la NASA, le robot Curiosity a détecté une variation de la concentration en méthane dans l'atmosphère martienne qui augmente du simple au triple en fonction des saisons. La découverte ravit les exobiologistes car le méthane est un composant prédominant de la vie microbienne. Pourquoi la quantité de méthane varie-t-elle autant dans l'air et atteint un pic en été? L'une des hypothèses est que ces variations pourraient être le signe d'une activité biologique dans le sol martien. C'est donc évidemment une affaire à suivre. Une étude publiée par l'Association des psychologues américains confirme que la faim est un facteur favorisant la colère chez l'homme. En revanche, être conscient de son envie de manger permettrait d'éviter cette émotion négative. Dans le dictionnaire d'Oxford, cet état est appelé « hungry », contraction du mot « hunger », la colère, et de « hungry », la faim en anglais. Aucune traduction française n'existe pour ce mot, mais si vous avez une idée, eh bien vous pouvez la laisser sur la page Facebook de La Tête au Carré. Des auditeurs nous ont déjà laissé leurs propositions. Et puis tous à vos agendas, la 6e édition du Forum du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, va se dérouler les 15 et 16 juin prochains à Toulouse. La Ville Rose va accueillir 80 chercheurs venus de toute la France qui présenteront, échangeront et débattront avec vous. Les grandes découvertes de l'année seront présentes, ainsi que des séances de sciences participatives. Nouveauté cette année, une soirée spéciale Grand Procès qui posera la question de la place des algorithmes dans les générations futures. Si vous souhaitez avoir tout le programme, le site du CNRS.fr pour savoir ce qui se passe donc près de chez vous à Toulouse cette semaine. La médecine personnalisée, notre dossier dans un instant. What's happened to our home? We live amongst the rockets. Rockets I used to own, underneath the dome and in a playground. Oh, I'm pleased, Lord save my soul. Forgive me for my role. Change our target. Other. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before our time is gone. Et c'est un groupe français, il s'appelle Her avec Neighborhood.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et c'est donc la médecine personnalisée qui nous intéresse cet après-midi dans l'émission pour comprendre ce que signifie vraiment cette façon de soigner les patients et si nous sommes face à la médecine de demain. Caroline Robert, on va en discuter avec vous, avec un exemple précis autour des mélanomes et de la dermatologie, puisque vous êtes chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy et chercheuse au sein de l'équipe de recherche INSERM sur le mélanome, donc équipe que vous dirigez. Marc Billot, vous êtes-vous directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, responsable du département sciences humaines et sociales du Centre Léon Bérard à Lyon, et vous travaillez sur l'étude des bases génétiques et biologiques des processus de cancérisation. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les questions et les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pour commencer, est-ce que peut-être Marc Billot, vous pourriez nous dire ce qu'il faut vraiment comprendre de ce concept de médecine personnalisée? Comment on doit interpréter aujourd'hui vraiment ce terme? Parce qu'on le disait tout à l'heure, finalement, les médecins font quand même a priori de la médecine personnalisée avec leurs patients.
Alors, je pense qu'il faut comprendre que c'est essentiellement un nouveau type de médecine moléculaire. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir une action thérapeutique ou préventive en ciblant les caractéristiques moléculaires de la pathologie ou du malade. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, Caroline et moi, nous travaillons dans le domaine de la cancérologie, donc on va plus parler évidemment du cancer,
bien sûr,
est un domaine très en pointe dans la médecine personnalisée, mais ça concerne en fait d'autres disciplines médicales, hein, pas uniquement de la cancérologie, donc il faut insister sur cet élément. Le terme de médecine personnalisée, c'est un terme, comme vous l'avez dit, Mathieu, qui pose problème. Hein, c'est un terme qui est un peu ambigu dans sa définition, parce que la médecine est par nature personnalisée. Ouais. Donc il y a d'autres termes qui existent. Médecine de précision, médecine génomique, médecine sur mesure, qui sont tous des termes qui sont des équivalents, pas toujours très satisfaisants, parce que médecine de précision laisserait supposer que la médecine, avant la médecine moléculaire,
était
une médecine d'imprécision, ce qui n'est évidemment pas vrai.
Ouais.
Mais bon, et puisqu'il faut un terme, retenons médecine personnalisée pour l'émission.
Ouais, Caroline Robert, on complète la définition. Donc on comprend que ce n'est pas tant du patient dont il s'agit que plutôt des gènes et des molécules.
Oui,
c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre.
Si on prend encore bien l'exemple du cancer, les traitements qu'on utilisait avant que ces thérapies dites ciblées ne fassent leur apparition, c'est qu'on essayait de neutraliser des grands processus. Par exemple, quand une cellule va se diviser et proliférer, il va falloir qu'elle refabrique une molécule d'ADN et ensuite d'ARN. Oui. Et donc, on intervenait sur ces processus de fabrication des acides nucléiques. Et là, on est plutôt dans l'identification d'une anomalie, en général enzymatique, ou d'un récepteur à la surface de la cellule. On a vu qu'il était soit amplifié, trop exprimé, soit muté, et on essaye de le neutraliser. Donc c'est un petit peu différent en ce sens.
Oui. Thérapie ciblée, ça c'est une bonne définition aussi. Je trouve que le terme est assez intéressant, non ?
Oui,
pour comprendre
c'est ça.
De quoi on parle.
Après, en fait, il faut voir que on utilise souvent thérapie ciblée en opposition à immunothérapie. Enfin, dans le domaine du cancer, c'est un peu ça. Il y a la chimiothérapie, donc le processus, hein, prolifération, division cellulaire, fabrication même des protéines. Ensuite, on a les thérapies ciblées avec l'exemple du mélanome. Dans la moitié des cas, le mélanome est porteur d'une mutation d'un gène qui s'appelle BRAF. Et quand ce gène est muté, la protéine correspondante est mutée et on peut la neutraliser avec une thérapie dite ciblée anti-BRAF. Et on peut aussi agir sur le cancer avec d'autres mécanismes. Alors, on ne les dit pas thérapie ciblée, mais il y a quand même des molécules qu'on cible, même quand on utilise des immunothérapies. Donc, il faut faire attention. En général, on réserve le terme de thérapie ciblée à des médicaments qui vont agir sur une molécule qui, en général, fait que la cellule cancéreuse elle-même va proliférer de façon anormale.
Marc Millot, qu'est-ce qui est parmi l'émergence au fond de cette médecine personnalisée, donc basée sur la génomique, on va le rappeler à chaque fois pour bien comprendre.
En fait, c'est un processus de long terme, hein, puisque c'est le travail qui a été réalisé par les équipes de recherche fondamentale dans le monde entier, mais aussi en France, hein, en particulier au CNRS et à l'INSERM, qui a visé à comprendre quelles sont les bases moléculaires de la cancérogénèse. Et donc, ce qui a permis d'identifier environ 150 gènes dont les mutations sont associées à des processus cancéreux. On a une métaphore intéressante.
150, excusez-moi, est-ce que c'est beaucoup ou pas finalement ? On a l'impression
que c'est peu. Mais 150, c'est pas énorme si on se réfère aux 25 000 gènes en gros
qui constituent le
génome humain. Mais c'est quand même un très gros travail de les avoir identifiés. Ouais. Ça a nécessité non seulement des approches fonctionnelles, mais après des approches de séquençage systématique des génomes tumoraux dans de très nombreux types de cancers. D'ailleurs, ça n'a pas été réalisé qu'en France. Hein. Ça a nécessité la constitution de consortiums internationaux. Et c'est quand même un travail absolument fantastique.
Ça veut dire que ces 150 gènes ont un rapport direct avec toutes les formes de cancer qui existent aujourd'hui ?
Oui. Et même ces 150 gènes code en fait, vous savez que les gènes codent pour des protéines, qui sont des protéines qui vont participer à des voies de communication intracellulaires ou extracellulaires, et on identifie à une quinzaine de voies qui sont des voies altérées dans les processus de cancérisation.
Mais Marc, on est bien d'accord que on va sûrement en découvrir d'autres.
Sans doute.
Hein,
Sans doute.
C'est pas les 150 gènes qui à eux seuls expliqueraient toutes les formes de cancer possibles.
Non. Parfois les voies sont activées et on n'a trouvé aucune de ces mutations, donc on se doute bien qu'il y en a d'autres.
Effectivement, c'est une question vraiment intéressante. On a une métaphore automobile qui est vraiment intéressante. Je pense qu'on reviendra là-dessus, qui est en fait, dans notre domaine, on appelle ces gènes qui sont des gènes qui participent directement au processus tumoral, des gènes conducteurs ou drivers en anglo-saxon. qui sont les gènes qui participent, donc qui sont directement impliqués dans le mécanisme de cancérisation. Pour les différencier des autres gènes, qui sont les gènes passagers, donc qui sont des mutations dans les gènes qui vont pas contribuer directement. Mais quand on fait une analyse, du génome tumoral, en fait, on identifie de très très nombreuses mutations. Il faut voir que pour un génome tumoral, on peut identifier jusqu'à entre 5000 et 20000 mutations. Donc après, essayer de discriminer dans cette complexité les gènes qui sont vraiment impliqués dans le processus tumoral est très complexe. Donc c'est pour ça que cette notion de gène driver, c'est une notion importante. Et donc un des gènes drivers est celui dont a parlé Caroline Robert, qui est ce gène BRAF, qui est muté dans les mélanomes, mais pas uniquement dans les mélanomes.
Ouais, donc c'est important de bien les cibler, justement, Caroline Robert, ces gènes qui sont un peu les chefs d'orchestre de la maladie ensuite.
Voilà, donc dans la thérapie ciblée qui cible directement la cellule cancéreuse et non pas la cellule immunitaire, on essaye de les neutraliser, ces protéines anormales, ces protéines qui fonctionnent trop. On essaye d'annuler leur fonctionnement, de neutraliser les cellules qui les surexpriment. Et effectivement, il faut taper dessus très fort, si je peux dire, pour les bloquer complètement. Parce qu'un blocage incomplet va pas être suffisant. Ouais. Mais le problème, c'est que les cellules cancéreuses, c'est un petit peu... Moi, j'ai un collègue chercheur, j'aime bien quand il utilise un peu cette comparaison. Et il montre un plan de métro et il dit, si c'est bloqué sur cette ligne-là, vous allez passer par une autre ligne de métro et vous allez quand même y arriver. Et les cellules cancéreuses, elles font un peu pareil. Elles, quand on les bloque... Même si on les bloque bien, elles vont trouver des moyens de proliférer en activant d'autres voies, des voies alternes. Et c'est ça le grand problème des thérapies ciblées, c'est-à-dire que parfois...
À vouloir trop cibler finalement
C'est-à-dire qu'elles vont activer d'autres voies de signalisation. Donc nous, on va à nouveau peut-être faire une biopsie des métastases pour analyser et voir quelles sont les mutations qui sont apparues ou qui ont été amplifiées par un biais de sélection. Et on va essayer aussi peut-être de les cibler, mais c'est un petit peu une course qui en général, au bout d'un moment, va pas nous laisser nous gagnants. Mmh. C'est pour ça que c'est formidable la thérapie ciblée. On va pas dire le contraire, c'est un énorme progrès. Mais
il y a déjà des limites que vous posez, très clairement, effectivement. Ouais. On va en discuter tout au long de l'émission. Il y a des messages d'ailleurs à ce sujet de la part des auditeurs. J'aimerais juste qu'on revienne en l'an 2000, parce que là c'est vraiment l'explosion de la génomique et les perspectives justement autour des thérapies ciblées et de la médecine personnalisée naissaient à ce moment-là.
Avec ces hommes, nous abordons un nouveau monde. Comme les conquérants de l'espace qui placent des satellites sur orbite, ils visent à diriger des gènes dans les cellules cancéreuses des organismes humains. Mais il ne suffit pas de connaître un gène, ou même 100, pour révolutionner la médecine, car le génome humain est un orchestre de 100 000 gènes. Ce génome existe en chacun de nous, dans chacune de nos cellules, depuis les premières divisions embryonnaires.
On n'avait pas, jusqu'à présent, le moyen de pouvoir ouvrir cette boîte noire qu'est la cellule pour essayer de comprendre véritablement comment elle fonctionne.
Pour ouvrir la boîte noire, on révolutionne les techniques de laboratoire. Les manipulations sont robotisées, informatisées, multipliées à l'infini. À tout âge de sa vie, on pourra connaître ses prédispositions, en particulier à telle ou telle maladie.
La carte génétique individuelle existera demain. On aura des traitements sur mesure par rapport à chaque tumeur et des traitements sur mesure par rapport à chaque individu.
Cela vaudra pour les cancers et la plupart des maladies. Pour chaque individu, avant même sa naissance, on pourra établir sur une puce à ADN une première carte génétique permettant d'anticiper la partition de chacun de ses gènes dans la musique de son génome.
Voilà, c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière. Pas si loin, c'était il y a 18 ans, donc en l'an 2000, autour des perspectives de la génétique, avec donc évoqué dans le sujet à la fin, la carte génétique individualisée, Marc Billot, comme si nous avions notre carte d'identité vraiment avec tous nos gènes. Est-ce qu'on y est là ou pas?
Je crois pas qu'on y soit vraiment, mais j'aimerais revenir parce que c'est vrai que c'est très très intéressant le reportage qu'on vient d'entendre. On identifiait 100 000 gènes. Bon, aujourd'hui, on estime qu'il y en a 4 fois moins. Donc, on voit que on a revu notre estimation à la baisse. Aussi, c'est en 20 ans, mais l'accélération incroyable des techniques de séquençage. Juste pour rappel, je pense que pour...
Et leur accessibilité aussi,
absolument,
d'ailleurs. Hein.
Je pense que pour les auditeurs, c'est quand même intéressant de savoir que le séquençage du génome humain, donc qui fait 3 milliards de paires de bases, c'est la manière dont on compte dans notre... En génétique, la taille d'un génome. Donc le séquençage a été publié, fini en 2003, et donc il a nécessité 13 ans de travail, de nombreuses équipes dans le monde, et il a coûté 3 milliards de dollars environ.
C'est ça.
Aujourd'hui, on est capable de séquencer un génome complet... En 24 heures. pour un prix d'environ 1 000 euros.
1 000 euros, voilà.
Donc ça dit l'extraordinaire accélération des progrès techniques.
Et alors, est-ce qu'on en fait bon usage finalement aujourd'hui ?
Je pense que dans le domaine de la cancérologie, oui, on en fait clairement bon usage, puisqu'il y a eu le séquençage maintenant de très nombreux types de cancers, qui a permis d'identifier les mutations qui sont impliquées dans les processus tumoraux. Et donc, on a aujourd'hui à notre disposition un atlas assez complet de ces mutations, et donc des anomalies génétiques qui participent à ces processus cancéreux.
Allez, on y revient dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
C'est avec ou sans prétexte, on célèbre, on m'appelle. Les bâtards qui m'aiment pas se forcent, j'ai juré. J'écoute rien, mais je sais lire sur les lèvres. Et j'ai lu en deux mots. Un connard et un mec bien dans le même corps. Un panneau frérague et un flingue dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole ou un épicier ouvert à 5h du mat. Je n'abandonne jamais, si je suis toujours vivant, c'est que je suis le vainqueur du match. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Vous avez besoin d'un sauveur, mais moi je veux que m'amuser. J'étais déjà bien égocentrique quand j'avais 10 balles et 2 moins. Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé? J'en ai marre de parler de moi. Ah.
Quand le malheur des autres se crée, quel est le secret que les hommes heureux gardent? Maman m'a dit faut se faire discret. Mais c'est tellement mieux quand on me regarde. C'est tellement mieux quand on me regarde. Laissez-moi faire ce que je veux.
Ou bien je risque de le faire illégalement, j'ai pas pris mes calmants. Hey! Je dis que de la merde et tous les jokes kiffent. Mon hyperactivité ne fait que choquer. Depuis les signes chinois sur le jogging, ça vient de mes cellules comme un disque jockey. Je sais dire je t'aime et je te baise en plein de langues. Influencé par le monde entier dans mes disques. On se mélange et je vois des gens qui médisent. Inch'Allah bientôt on est tous métis. Suis-moi si tu veux voir des monstres gentils. On n'a pas le nez vert, ton kebab est pas bleu, mais on y a caché quelques champis. Alors fais la fête avec nous. Les carrés diraient comme, comme, comme. Que du love jusqu'à la mort. Le nirvana dans le corps comme Kobe. Faut de la drogue, certains sont morts en le montre en main. Si les chefs de ce monde fumaient de la queue, con, toutes les guerres s'arrêtaient en deux secondes.
Montre en main.
BTW, la politique peut sucer mon gros doigt. Je suis différent même des gens que je côtoie. Tu pensais quand même pas que j'étais comme toi. T'es obsédé par le liquide, mais t'es pas en go. Me sors pas les mêmes conneries que tes parents gobe. T'es défoncé, tu repars en go. Mélange de pilules et de whisky, miskin. Tu vas finir comme Octave Parango.
Sans prétexte, on célèbre, on m'appelle. Les bâtards qui m'aiment pas se forcent, j'ai juré. J'écoute rien, mais je sais lire sur les lèvres. Et j'ai lu en deux mots.
Un connard et un mec bien dans le même corps. Une lettre d'amour et un couteau dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme le docteur qui t'annonce que t'es séronégatif, un frère ou un super héros. Si tous les gens intelligents sont tristes, je préfère être un imbécile heureux. Un monde où tout est gratuit. La société m'a rendu marteau. Je recompte tout ce que j'achète depuis mon premier McDo. Je voudrais bien donner des leçons, mais je suis qu'un simple tout bas. C'est dur d'avoir le poids de Tupac quand t'as le visage tout pâle. C'est bien s'exprimer, mais il a connu la vie de white trash. Ce petit con est fier, des fois il crie, des fois il crache. Peut-être que la richesse ça rend pas heureux, mais crois-moi la pauvreté c'est un fleuve de douleur. J'ai oublié mon parapluie, pourvu qu'il pleuve des dollars.
Et c'est l'homme pâle qui chantait pâle pâle.
La tête au carré sur France Inter.
Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle.
Les ovules qu'on vous a prélevés ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais
Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous.
Voilà, bienvenue à Gattaca pour illustrer notre sujet sur la médecine personnalisée, la façon dont on utilise justement le génome aujourd'hui. Caroline Robert, Marc Billot sont mes invités. Ils vont répondre à vos questions sur franceinter.fr. Est-ce que vous voulez commenter ce qu'on vient d'entendre, puisqu'on évoquait également tout à l'heure, Caroline Robert, la carte d'identité génétique d'un individu? C'est ce que veut nous dire aussi l'extrait de ce film.
Oui, alors je pourrais faire le lien en disant, en réalité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quand on parle de traitement ciblé du cancer, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus complexe que de traiter juste des cellules cancéreuses. Ouais, traiter un patient avec un cancer. Parce qu'en fait, ce qu'on traite, c'est quoi? C'est une interface entre des cellules cancéreuses et une personne. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que d'essayer juste de faire...
C'est pas que le génome,
ben
finalement.
Oui,
hein, le cancer, c'est
surtout
pas que ça.
Pas que la cellule cancéreuse. Il y a l'environnement, dans quel organe ça se développe. Il y a maintenant, on sait qu'il y a même nos propres microbes qui sont là dans notre corps, dans notre tube digestif et ailleurs, qui vont intervenir. Il y a notre génétique constitutionnelle, c'est-à-dire quels sont les gènes qui sont actifs dans toutes les cellules de notre organisme. Et en fait, on pourra vraiment parler de médecine personnalisée quand on sera capable, et d'ailleurs maintenant on ne peut plus faire de médecine intelligente sans des bioinformaticiens qui travaillent avec nous.
Sans prendre en compte tous ces paramètres finalement.
Voilà, et les intégrer. Et les intégrer d'ailleurs pas une fois, les intégrer au cours du temps, parce que les choses changent. C'est une interface qui est mouvante.
Ça change tout le temps, comme le microbiote par exemple.
Mais c'est ça. Ouais. Et donc il faut faire attention en fait à l'espace et au temps. Ouais. Et il faut intégrer tout ça.
Ouais. Et on voit la complexité du travail, de la tâche qui est amenée, Marc Billot. Mais là, on est quasiment dans le monde des algorithmes, parce qu'il faut traiter des données par milliards, et c'est absolument vertigineux quand même, non, de comprendre un organisme.
Oui. Je peux revenir juste. Il me semble que c'est vraiment important la question de l'extraordinaire quand même complexité des cancers. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau génomique. Hein. Ouais. Il y a une évolution. Donc, il n'y a pas un génome tumoral. Il faut bien comprendre qu'il y a des génomes tumoraux qui vont évoluer dans le temps, puisque la tumeur va accumuler des mutations. Et même quand on regarde dans des tumeurs qui sont des tumeurs solides, on voit qu'il y a une hétérogénéité spatiale. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a une très grande complexité, en fait, du génome tumoral. Après, je suis absolument d'accord, il ne faut pas avoir une vision qui soit juste génocentrée. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont importants dans le processus tumoral. Le micro-environnement, donc le dialogue incessant des cellules tumorales avec les cellules qui sont autour, non seulement les cellules du système immunitaire, mais aussi les fibroblastes, les cellules aussi qui participent à la formation des vaisseaux. Il y a les mécanismes épigénétiques aussi qui jouent un rôle majeur, les mécanismes métaboliques aussi. Donc il ne faut pas avoir une vision qui est uniquement génocentrée.
Alors ça c'est bien pour le principe, pour la théorie, mais est-ce que dans la pratique justement, on arrive à tenir compte de tous ces paramètres quand on veut s'occuper d'un patient malade?
Non seulement on arrive à en tenir compte, mais bien évidemment c'est aussi l'objet d'actions thérapeutiques. Donc je pense que Caroline Robert pourra en reparler pour l'immunothérapie, puisqu'elle en cible justement les cellules immunitaires qui infiltrent la tumeur. Et qui joue un rôle majeur aujourd'hui dans les progrès thérapeutiques.
Mais d'ailleurs,
Caroline Robert.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que les mutations des cancers sont des choses que initialement on pensait comme être des choses délétères pour nos traitements, puisque plus ils sont mutés en général, plus on garde les cellules dont les mutations donnent le plus grand avantage de prolifération. Mais ce qui est un peu d'ailleurs difficile à comprendre parfois, c'est que quand on va traiter les patients par des immunothérapies, en fait, plus les cancers sont mutés, plus on a de chances d'avoir éventuellement des nouveaux antigènes, on appelle des néo-antigènes, qui vont stimuler le système immunitaire. Alors, c'est un petit peu, ça peut avoir l'air contradictoire. D'un côté, on ne veut pas avoir trop de mutations driver, comme nous disait Marc, qui vont entraîner et faire que les cancers vont être hyper coriaces. Ouais. Mais d'un autre côté, si on veut se battre avec des outils d'immunothérapie, c'est pas mal d'avoir des nouveaux antigènes qui sont créés à la faveur de ces mutations, finalement, et qui vont être les cibles du traitement.
Ouais. Donc avec tout ça, il faut trouver des stratégies thérapeutiques. Hein. Voilà. Et c'est compliqué, on voit la
Mathieu,
complexité de votre travail.
Mais Mathieu, vous utilisez le mot stratégie, c'est ça, hein, c'est la guerre.
Bien sûr,
c'est vraiment ça.
Marc Billot, pourquoi on parle d'ailleurs beaucoup du cancer, là, ensemble, autour de ces thérapies ciblées, de cette médecine personnalisée? Parce que ça concerne vraiment que les cancers aujourd'hui. On est capable de bien traiter ces maladies uniquement avec ces outils-là, ou il y a d'autres pathologies qui peuvent s'y prêter?
Ah non, c'est ce qu'on a dit en préambule, c'est-à-dire que la médecine personnalisée déborde largement notamment le cas de la cancérologie. Alors il y a des approches avec lesquelles je suis moins familière, mais il y a des approches, par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, où il y a des médicaments très ciblés qui vont pouvoir agir sur les formes mutantes du récepteur qui a un canal chlore, hein, qui est impliqué dans cette maladie. Mais il y a d'autres approches dans d'autres types de pathologies. Donc il faut vraiment que ce soit un élément qui soit présent à l'esprit des auditeurs. Ouais. C'est la médecine personnalisée déborde le cadre de la...
Voilà.
De la
et aujourd'hui, c'est une réalité vraiment dans ce qu'on propose, par exemple, aux patients, dans le domaine du cancer, par exemple. C'est quelque chose qui est très commun, cette médecine personnalisée.
Définitivement. Aujourd'hui, il existe donc des plateformes de génétique moléculaire des cancers, dans lesquelles on fait des tests de routine pour identifier les principaux gènes pour lesquels on peut avoir une action thérapeutique. Et donc, il y a 28 plateformes qui existent et qui maillent l'ensemble du territoire national, qui permettent aux patients d'avoir accès à ce type de thérapie.
Est-ce qu'on a vraiment gagné en résultats sur la maladie en utilisant ces nouveaux outils là, aujourd'hui?
Alors, je ferai une réponse circonstanciée. Pour certains cancers, les résultats sont absolument spectaculaires.
Lesquels, par exemple?
Il y a des formes de leucémie. Une des premières formes de leucémie qui a été traitée avec un médicament ciblé, qui est le Glivec, est une forme de leucémie pour laquelle aujourd'hui l'espérance de vie des patients est celle de la population générale. Donc on arrive à guérir. Il y a d'autres types de cancers, il y a des tumeurs intestinales aussi, des tumeurs gastro-intestinales, en fait qui sont sensibles de manière intéressante aux mêmes médicaments, donc ce qui nous permettra de revenir sur cette notion de thérapie ciblée. Et donc là aussi, le pronostic a été radicalement changé. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on parle de thérapie ciblée, on pense deux choses. D'abord, la molécule, elle va être très spécifique d'une protéine et elle aura peu d'effets secondaires. Et en fait, c'est pas toujours le cas. La preuve, pour ce médicament qui permet de soigner cette forme de leucémie, donc le Glivec, ce médicament est aussi très très efficace contre une tumeur qui n'a rien à voir et qui exprime un récepteur, qui est un récepteur particulier. Et donc, non seulement la spécificité est pas toujours absolue, mais en plus, Caroline Robert pourra en parler beaucoup mieux que moi, il y a des effets secondaires aussi, même des thérapies ciblées. Ouais.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les questions et les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante l'amour de la vie. Si belle et si charmante qu'autour d'elle tout s'enchante. Elle est si sensuelle que mâle et femelle tombent en extase. Se pâme et se pavane devant sa caravane. Elle est si jolie, craquante et sexy, que ses fans adorent. Qu'elle rugisse et qu'elle ose, suggérée par ses poses. Qu'est-ce qui l'a fait bondir, sauter et rugir, de colère ou de joie, de rage ou de plaisir. La marque boutée entre terre et ciel qui fait vibrer ses ailes. Rebelle, rebelle. Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante la nuit comme le jour. Et parfois si cruelle qu'on se flinguerait pour elle. Elle est si vivante, drôle et désarmante, qu'on toucherait du doigt ce qui vibre en elle, la toute petite parcelle de l'âme. universel. Elle est si sublime que c'est presque un crime de vouloir l'enfermer parfois entre mes bras. Elle est si volage, si libre et sauvage que la mettre en cage est juste. Moi j'aime comme elle est, comme je la crois, comme je la sais.
Elle est si touchante et c'est la voix de Jacques Higelin bien sûr à l'instant.
La tête au carré.
C'est un nouvel espoir pour Danielle. Après avoir surmonté un cancer du sein, elle se bat aujourd'hui contre des tumeurs au poumon. En 3 ans, les chimiothérapies se sont succédées sans effet. Il y a 8 mois, elle a accepté un programme de soins et de recherche inédit.
Je participais à la recherche et la recherche venait à mon secours. Et puis les résultats, on les lit sur l'écran aujourd'hui.
700 patients victimes de récidive participent à cet essai clinique dans toute la France. Le programme de recherche dispose de 11 traitements différents, délivrés selon de nouveaux critères.
Il y a certains patients, par exemple, qui ont un cancer de la gorge, à qui on va donner un traitement qui est approuvé pour le cancer du rein, parce qu'ils ont l'anomalie moléculaire qui correspond et que l'on retrouve également dans le cancer du rein. Donc on ne raisonne plus par la localisation du cancer, mais on raisonne par la biologie, par la carte génétique de la tumeur.
Pour cela, les médecins ont d'abord effectué un prélèvement de la tumeur pour en analyser l'ADN dans ce laboratoire.
Grâce à cette plateforme, on peut avoir le résultat de toutes les anomalies en une seule manipulation. Elle est là, la révolution. Et ensuite, on propose le traitement qui correspond, ce qu'on appelle la médecine personnalisée.
Voilà, avec ce sujet qui a été tourné en 2014, en mai 2014, à l'Institut et cette plateforme donc de l'Institut Curie. Il y avait ce mot de révolution sur lequel vous avez réagi, Marc Billot, parce que je crois que vous êtes assez mesuré quand même dans vos propos. La médecine personnalisée, c'est pas une révolution pour vous aujourd'hui ?
Alors, en préambule, moi, je comprends parfaitement que pour les oncologues qui avaient à traiter des cancers qui étaient incurables, l'arrivée de ces nouvelles thérapies est pour eux vraiment une chance inespérée. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose de miraculeux. Ceci étant, je suis très très prudent sur l'utilisation de ce terme révolution. Je pense qu'il faut être, il faut être mesuré. Il faut prendre du recul.
Parce qu'il y a beaucoup de limites encore aujourd'hui.
Il y a encore beaucoup de limites, oui. Il y a des limites sur notre compréhension déjà des mécanismes, même des mécanismes génomiques. Par exemple, donc Caroline Robert travaille sur cette mutation, donc qu'on retrouve dans les mélanomes et donc qu'on peut cibler avec un médicament. La même mutation, on va la retrouver dans d'autres types de cancers, en particulier le cancer du côlon. Il s'avère que si on traite les patients avec le même médicament, il n'y a pas d'efficacité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres mécanismes qui se surajoutent et qu'il faut comprendre. Il y a aussi des situations qui sont des situations très étonnantes. Il a été montré pour des tumeurs du système nerveux central. Il y a un séquençage complet du génome qui a été fait. On n'a jamais pu identifier de mutation. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir une vision qui soit une vision juste centrée sur le génome. Il y a des limitations dans notre compréhension. Ce qui est d'ailleurs un défi absolument formidable pour les chercheurs de comprendre quels sont ces mécanismes. Mais clairement, il ne faut pas se limiter qu'au génome, même si ça offre des perspectives thérapeutiques aujourd'hui qui sont très importantes.
D'abord, parce que vous le disiez tout à l'heure, Caroline Robert, la cellule cancéreuse, elle est très intelligente. Elle est plastique.
Hein,
voilà. Donc, elle trouve aussi toujours des parades.
Enfin, moi, quand même, je dirais que j'ai envie de dire que c'est une révolution quand même. Parce que
alors, dans votre domaine, par exemple, puisque vous avez créé cette unité de recherche dédiée au traitement personnalisé, sur le mélanome, il y a des vrais résultats.
Le mélanome métastatique, c'était une maladie pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Et en quelques années, depuis 2011, on a cette stratégie. 70% de patients qui vont répondre quand on va instaurer une thérapie ciblée avec deux médicaments, enfin un anti-BRAF avec un anti-MEC, peu importe, décomprimé. Et on peut dire aux patients, il y a 70% de chances pour que vos métastases régressent de façon très importante. Et c'est parfois visible en une semaine, donc c'est fantastique.
Mais est-ce qu'on guérit pour autant ?
Alors voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas arrêter ces médicaments. Dans le meilleur des cas, ça répond très très bien, voire ça répond complètement. On appelle ça réponse complète. Rémission complète, mais...
C'est quoi, c'est guérison, rémission complète ?
Alors, on ne peut pas dire guérison parce qu'on ne peut pas arrêter ces médicaments et on a... parce qu'on sait, par expérience...
Que ça reprend.
Que ça va reprendre. Et malheureusement, même quand on les continue, il y a un phénomène de résistance secondaires. Donc le patient a répondu initialement favorablement. Et puis, en moyenne, en un an, la moitié des patients vont voir leur métastase repoussée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit contingent de cellules qui s'est caché, hein, qui n'a pas proliféré pendant un certain temps et qui a cherché le moyen de créer une résistance. Et nous, c'est vraiment le cœur de notre recherche au laboratoire.
Est-ce que ce n'est pas ça qui fait dire à Marc Billot qu'il faut être très prudent sur l'emploi du mot révolution ? Parce que justement, ce que vous décrivez, ça montre quand même certaines limites. Même si on a très bons résultats pendant un an, il peut y avoir reprise.
Alors là, c'est sûr que si tout d'un coup, on passait d'une maladie incurable qui tue 100% des gens en une moyenne de un an à une maladie qu'on guérit dans 100% des cas, on serait euphorique.
Oui.
Bon. On n'en est pas là, mais on a déjà fait des pas énormes. Donc, moi, je dis, c'est un début de révolution, quand même. Ça pose beaucoup de questions et on est très challengé, mais ouais. C'est quand même formidable.
Allez, on va répondre aux questions des auditeurs, si vous le voulez bien, pour les dernières minutes de l'émission. Adeline, sur Facebook, nous dit « Cette médecine personnalisée semble très prometteuse, mais une critique qui revient souvent et son coût élevé, beaucoup plus élevé que la médecine dite classique. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites pour évaluer l'évolution des coûts lorsque ces technologies seront mieux maîtrisées ?» Marc Billot, si vous voulez répondre à Adeline.
Alors, votre auditrice a parfaitement raison. Hein, donc, ces thérapies coûtent cher. Elles coûtent même très cher, voire même trop cher. Ça, c'est une évidence. Hein, et je pense que la plupart des oncologues sont convaincus. Après, les raisons pour lesquelles ces médicaments sont facturés de manière aussi importante, c'est une question complexe. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, les cures annuelles pour les thérapies ciblées, c'est entre 30 000 et 70 000 euros. Donc, c'est cher. Et avec quand même une pression qui est exercée sur nos systèmes de remboursement qui est très importante. Hein. Le coût annuel du traitement en cancérologie est passé aux États-Unis de 200 dollars à 10 000 dollars entre 1975 et 2014. Donc il y a vraiment une inflation du coût des médicaments. Il ne s'agit pas évidemment de faire le procès de l'industrie pharmaceutique ici, mais les questions sont complexes. Et de manière évidente, ces médicaments sont chers.
Nathalie demande, je connais ma mutation familiale BRCA1 après deux cancers, on parle du cancer du sein, donc en l'occurrence, j'ai maintenant 50 ans, donc c'est surtout pour ma fille de 20 ans, elle aussi BRCA1 que j'ai peur. Peut-on raisonnablement penser qu'elle connaîtra un jour un traitement ou faudra-t-il encore une autre génération ? Qui veut répondre à cette question ? Marc Billot, peut-être difficile. Hein.
Oui, c'est un...
Voilà, sur les cancers du sein. Voilà, vous voulez prendre le temps de réfléchir ?
Je relis la question et je vais
répondre très vite parce qu'il nous reste une minute, donc ça va être très très rapide. Est-ce qu'il existe une médecine personnalisée pour tous les types de cancers ? Ça, c'est une autre question de Chantal sur le site de l'émission. Alors, Caroline Robert.
Pas encore. On essaye de en fait, on recherche des mutations, comme disait une des personnes qui faisait le reportage. Avec, quelle que soit l'origine du cancer, on va rechercher les mêmes mutations et on va chercher sur quoi on peut agir avec nos médicaments. C'est pas toujours une pêche fructueuse, mais on va essayer.
Allez, Marc Billot, pour répondre.
Je peux répondre à votre auditrice. Alors déjà, il y a en fait une approche préventive. Hein. C'est-à-dire, si on identifie la mutation, on peut proposer aux femmes qui sont porteuses de cette mutation une focalisation de l'attention clinique et après des stratégies préventives qui peuvent passer malheureusement, parce qu'on est assez démunis, par la mastectomie bilatérale. Au demeurant, il existe aujourd'hui des médicaments qui ciblent les cellules tumorales qui sont porteuses de ces mutations. Donc, je pense qu'on peut répondre par l'affirmative à votre auditrice.
Dernière question, quelle place a l'épigénétique justement au sein de cette médecine personnalisée ?
Majeur. Nombreux de mécanismes de chimiorésistance qu'évoquait Caroline Robert sont les mécanismes épigénétiques. Donc, et on dispose aujourd'hui de médicaments qui peuvent cibler d'ailleurs les protéines et les molécules qui interviennent dans ces mécanismes épigénétiques. Donc là aussi, c'est une source d'espoir.
Autre volant de complexité.
Absolument.
Caroline Robert, avant de partir, vous êtes entré dans ce studio tout à l'heure en me disant « J'ai un message à transmettre au sujet du soleil sur le crâne des hommes
qui ne
se protègent pas l'été. »
Ah oui, s'il vous plaît, les hommes qui ont perdu leurs cheveux ou qui sont d'ailleurs très beaux sans cheveux, parce que c'est quand même très répandu maintenant, mettez un chapeau. Ou mettez une bonne crème solaire et réappliquez-la parce qu'on passe notre temps à enlever des cancers de la peau sur le crâne des patients quand ils ont atteint un certain âge. Vous vivrez plus vieux que vos ancêtres et heureusement, mais protégez votre tête. Merci beaucoup.
Ça, c'est un message à retenir parce que vous en voyez de plus en plus effectivement passer entre vos mains.
Beaucoup, beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux. Caroline Robert, donc chef du service de dermatologie de Gustave Roussy et Marc Billot, directeur de recherche au CNRS au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon. Merci d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré. Fabrice Rouel, tous ses cheveux dans un instant.